Le bel évangile qui permet au Saint-Esprit de demeurer en ceux qui croient. Ésaïe chapitre 9 versets 6 à 7. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Par quoi le Saint-Esprit peut-il demeurer en ceux qui croient? Le bel évangile de l'eau et de l'Esprit. Pour recevoir l'habitation du Saint-Esprit de Dieu, il faut avoir la foi dans le bel évangile de l'eau et de l'Esprit donné par notre Seigneur. Le nom de notre Seigneur est appelé, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Il s'est désigné lui-même comme le chemin vers le ciel. Jésus-Christ a donné le bel évangile à tous les pécheurs. Il y a d'innombrables pécheurs qui vivent dans les ténèbres dans ce monde. Bien qu'ils s'efforcent d'échapper aux ténèbres, ils ne peuvent pas se libérer de leur péché parce qu'ils ne connaissent pas le bel évangile, ce qui les conduit à lutter dans le péché toute leur vie et à affronter finalement la mort, une vie vaine. Cependant, certaines personnes cherchent la vérité et finissent par rencontrer le bel évangile, ce qui leur permet de vivre une vie bénie. Rencontrer ce bel évangile et être libéré du péché ne s'accomplit que par la grâce spéciale de Dieu. Cependant, rencontrer le bel évangile n'est pas une tâche facile, c'est impossible sans la grâce de Dieu. Si nous rencontrons le Seigneur et recevons l'habitation du Saint-Esprit, nous sommes des personnes bénies de manière merveilleuse. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent que les bénédictions de Dieu viennent par la foi en ce bel évangile. Cependant, vous pouvez recevoir d'incroyables bénédictions en rencontrant le bel évangile. Lorsque vous croyez au bel évangile accompli par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous recevez les bénédictions de Dieu. Le seul qui nous sauve des péchés du monde et nous accorde la grâce, c'est Jésus-Christ seul. Aucune autre idéologie ni aucune religion de ce monde ne peut sauver complètement les êtres humains du péché ni les aider véritablement. Quel être humain peut se sauver lui-même de son propre péché et de la mort? Dieu nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort, Proverbe 16 verset 25. Les êtres humains entrent dans des chemins de destruction à travers les religions qu'ils créent eux-mêmes. Beaucoup de religions dans ce monde soulignent leur propre justice et parlent du salut du péché, mais en vérité, seul le bel évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur peut sauver tous les hommes du péché, de la destruction et des malédictions. Jésus seul est le Sauveur qui délivre tous les pécheurs de tous les péchés du monde et des malédictions. Dans Jean 14 verset 6, le Seigneur a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Notre Seigneur a donné sa chair et son sang à tous les pécheurs de ce monde qui se tiennent sur le chemin de la mort. Il a aussi dit lui-même qu'il est le chemin pour obtenir la véritable vie. Dieu le Père a déclaré que personne ne peut entrer au ciel s'il ne croit pas au bel évangile accompli par son Fils, Jésus. Nous devons tous croire au bel évangile que Jésus-Christ nous a donné pour être sauvés du péché, et en croyant qu'il est notre Sauveur, nous entrerons au ciel. Il y a bien longtemps, au pays d'Israël. Il arriva, du temps d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozia, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pekach, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem, pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger, Ésaïe 7 verset 1. À l'origine, Israël était une seule nation. Cependant, sous le règne du roi Roboam, la nation fut divisée en sud et nord. Dans le royaume du sud d'Israël, gouverné par Roboam, fils du roi Salomon, se trouvait le tabernacle où Dieu demeurait. Plus tard, Jéroboam, un proche serviteur du roi Salomon, se rebella contre lui et établit un royaume au nord. À partir de ce moment, Israël fut divisé en royaumes du sud et du nord. À partir de ce moment-là, la foi en l'Éternel Dieu commença à se corrompre. À cause de cette foi corrompue, des croyances hérétiques ont prévalu jusqu'à aujourd'hui. Jéroboam est devenu le fondateur de l'hérésie. Afin de préserver sa propre royauté, il a déformé la loi de Dieu et est devenu l'instigateur de la foi hérétique. Il a créé une fausse religion pour le peuple d'Israël qui cherchait Dieu. Après cela, tout le peuple d'Israël s'est habitué à la fausse religion qu'il avait instaurée. Jéroboam s'est ensuite allié au roi d'Aram et s'est opposé au roi et au peuple d'Israël du Sud. À cette époque, Dieu a prophétisé par l'intermédiaire du prophète Ésaïe que le plan de Jéroboam n'aboutirait pas et qu'il serait vaincu. Dieu a dit par l'intermédiaire d'Ésaïe : « De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville, et battons-la en brèche, et proclamons Y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie, et Retsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas, Ésaïe 7 versets 5 à 9. À cette époque, Dieu adressa une parole prophétique au roi du royaume du Sud, le roi Achaz, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, mais il semble que le roi n'ait pas pu y croire. Il pensait, « Même si seulement le roi de Syrie envahit maintenant, mon pays pourrait être détruit », et en entendant que le roi d'Israël et le roi de Syrie s'étaient alliés pour attaquer, son cœur trembla comme les feuilles d'un arbre agité par le vent. Alors, le serviteur de Dieu, Ésaïe, apparut et transmit la volonté de Dieu en disant, « Dans 65 ans, le royaume du nord d'Israël sera détruit et, le mauvais dessein formé par les deux rois ne s'accomplira jamais. » Le serviteur de Dieu dit au roi Achaz de demander un signe à ce sujet. « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Ésaïe 7 verset 11. Ésaïe dit, « Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Ésaïe 7 verset 13 à 14. Cette prophétie a été donnée comme un signe que Dieu sauverait son peuple, Israël. Qui est l'ennemi de Dieu? Qui est l'ennemi de Dieu à notre époque? Ce sont ceux qui ne croient pas au bel évangile de la vérité que Jésus a accompli par son baptême et le sang de la croix. L'ennemi de l'humanité, c'est le péché lui-même, et ce péché trouve son origine en Satan. Alors, qui est le sauveur qui peut délivrer l'humanité de Satan? Ce sauveur, c'est Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre. Beaucoup de gens, à cause de la faiblesse de la chair, commettent de nombreux péchés et portent ces péchés dans leur cœur. Le maître de ce péché, c'est Satan, et par conséquent, l'humanité est sous l'autorité de Satan. Par exemple, encore aujourd'hui, d'innombrables personnes consultent des diseurs de bonne aventure lorsque les problèmes de leur vie ne trouvent pas de solution, et elles essaient d'adapter leur vie à ce que leur disent ces derniers. Cela aussi est un événement qui se produit sous l'autorité de Satan. Dieu a donné au prophète Ésaïe un signe de salut, disant qu'une vierge concevrait et donnerait naissance à un enfant, et que son nom serait appelé Emmanuel. Cette prophétie était le plan annoncé d'avance par Dieu selon lequel Jésus viendrait sous forme humaine pour délivrer les pécheurs de l'oppression de Satan. Conformément à cette prophétie de Dieu, Jésus est venu sur cette terre à la ressemblance des hommes, né du corps d'une vierge, afin de sauver l'humanité du péché. Si Jésus n'était pas venu sur cette terre comme le sauveur de l'humanité, toi et moi n'aurions eu d'autre choix que de vivre sous l'autorité de Satan, opprimés par le péché et menant la vie que Satan voulait que nous menions. Cependant, parce que Jésus est venu sur cette terre dans la chair, qu'il a été baptisé par Jean et qu'il est mort sur la croix, il nous a donné le bel évangile qui sauve complètement les pécheurs du péché. En conséquence, beaucoup de personnes ont reçu l'effacement des péchés en croyant au bel évangile et sont devenues enfants de Dieu. Même aujourd'hui, certains théologiens avancent des affirmations absurdes au sujet de Jésus, demandant « Est-il Dieu ou est-il un être humain créé ?» Les théologiens conservateurs disent « Jésus est Dieu », tandis que les théologiens libéraux soutiennent « Il était un enfant illégitime né de Marie et de Joseph, et ils se disputent entre eux. » C'est vraiment pathétique. Ces théologiens libéraux ne croient pas au pouvoir de Jésus de marcher sur l'eau, et ils disent « Lorsque Jésus marchait sur une colline, les disciples, le voyant de loin, ont cru à tort qu'il marchait sur l'eau, mais en réalité, il ne marchait pas sur l'eau. » Les soi-disant docteurs en théologie d'aujourd'hui ne sont pas des docteurs en véritable théologie. Au contraire, ce sont les personnes les plus dépourvues de foi. Avec un cerveau d'Alexandre peine 130 de QI, ils essaient de ne croire que ce qu'ils peuvent comprendre au sujet du bel évangile de la vérité. Un autre exemple est leur incapacité à croire au miracle de Jésus qui a nourri 5000 personnes avec 2 poissons et 7 pains d'orge. Ces théologiens libéraux disent « Lorsque les gens suivaient Jésus et mouraient de faim dans les champs, Jésus ne pouvait pas les laisser partir affamés. Il a donc demandé à ses disciples d'apporter toute la nourriture qu'il leur restait. Les disciples ont amené à Jésus le déjeuner d'un garçon. Voyant cela, les adultes ont eu honte et ont sorti toute la nourriture qu'ils avaient prévue pour eux-mêmes. Chacun a partagé la nourriture qu'il avait apportée et il y eut 7 paniers de reste. De cette façon, ils tordent les paroles de Jésus pour les adapter à leur compréhension humaine et ne croient qu'en ce qu'ils peuvent saisir. Cependant, croire en la vérité de Dieu, c'est croire en le bel évangile tel qu'il est, tel que Dieu nous l'a donné. Une foi qui n'accepte la parole de Dieu que lorsqu'elle est compréhensible et refuse de croire lorsqu'elle ne l'est pas, n'est pas une vraie foi en Dieu. La véritable foi consiste à faire entièrement confiance et à accepter dans son cœur les paroles de Dieu, qu'elles aient du sens ou non d'un point de vue humain. La parole disant que Jésus-Christ viendrait sur cette terre sous une forme humaine est le premier signe par lequel Dieu accomplit la prophétie qu'il a faite à l'humanité, celle de la sauver de tous les péchés du monde. Jésus est venu dans ce monde sous forme humaine pour sauver l'humanité de tout péché. Ésaïe a prophétisé que Jésus, en tant que sauveur, naîtrait dans ce monde par le corps d'une vierge. Dans Genèse 3, verset 15, Dieu a prophétisé « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Cette prophétie était la promesse de Dieu que Jésus, qui est Dieu lui-même, viendrait sous forme humaine pour détruire la puissance de Satan et sauver l'humanité de tout péché. Pour accomplir cette prophétie, Jésus est venu sur la terre dans la chair humaine afin de délivrer l'humanité qui gémit sous le poids du péché. La Bible rapporte « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi, 1 Corinthiens 15 versets 55 à 56. Amis, l'aiguillon de la mort, c'est le péché humain. Parce que les gens ont le péché dans leur cœur, ils sont attaqués par la mort. Satan utilise le péché pour asservir les hommes comme ses serviteurs. Cependant, notre Dieu a promis, sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. Cela signifie que Jésus viendrait sous forme humaine pour ôter le venin mortel du péché qui est entré dans l'humanité par Satan. Jésus est venu sur cette terre comme un homme, a été baptisé par Jean et a été crucifié pour porter le jugement du péché, afin que ceux qui croient en ce bel évangile soient sauvés de leurs péchés. Cette vérité est précisément la parole que Dieu a prononcée comme promesse et prophétie à Satan lorsque nos ancêtres, Adam et Ève, ont péché. À notre époque, les ennemis de Dieu sont ceux qui ne croient pas au bel évangile de la vérité que Jésus a accompli par son baptême et le sang de la croix. Pourquoi Jésus devait-il naître sur cette terre ? Dieu a donné la loi et le bel évangile pour sauver l'humanité du péché. Par la loi donnée par Dieu, les gens ont pris profondément conscience de leur nature pécheresse devant lui. La loi servait d'avertissement, aidant les gens à reconnaître leur péché. Lorsque l'humanité était prisonnière sous la loi, asservie par le péché, Jésus est venu pour accomplir la loi. Jésus devait aussi naître sous la loi. C'est pourquoi Jésus est venu à l'époque de la loi. La raison pour laquelle la loi est nécessaire aux hommes, c'est qu'ils doivent d'abord connaître leurs péchés afin de recevoir la rémission des péchés. Autrement dit, tout comme une personne doit d'abord réaliser qu'elle a quelque chose de sale sur le corps avant d'essayer de le laver, il faut connaître la loi de Dieu pour prendre conscience et comprendre ses propres péchés. Sans la loi de Dieu, le péché n'existerait pas et il n'aurait pas été nécessaire que Jésus vienne sur cette terre. En connaissant la loi de Dieu, vous pouvez avoir l'occasion de le rencontrer. Après avoir connu la loi de Dieu, nous avons pris conscience de nos péchés, et après avoir pris conscience de nos péchés, nous sommes venus à connaître et à croire au bel évangile de la vérité par Jésus-Christ. Si Dieu n'avait pas donné la loi à l'humanité, il n'y aurait pas de pécheurs et pas de jugement pour le péché. C'est pourquoi, après avoir donné la loi, Dieu nous a donné la parole du bel évangile et a sauvé tous les pécheurs de leurs péchés. La loi qui doit exister entre le Créateur et les créatures est la loi du salut, qui est la loi de l'amour de Dieu. Dieu a dit à l'homme, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » C'était la loi établie par Dieu pour l'humanité, et elle est devenue le fondement de la loi de l'amour afin que les hommes puissent être délivrés du péché. De plus, la loi du salut de Dieu repose sur le critère de l'effacement du péché. Dieu a dit, « Je suis ton Créateur, et toutes choses ont été créées par moi. » Cela signifie que Dieu doit être l'être absolu pour l'humanité et que les hommes doivent croire à la loi du salut accomplie à travers le bel évangile. Dieu est l'absolu, et il est absolument bon. Le fait que Dieu ait tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique signifie que Dieu est le sauveur des pécheurs du monde. Si Dieu avait créé l'homme mais ne lui avait pas donné le bel évangile qui le sauve du péché, l'humanité aurait accusé Dieu. Cependant, Dieu a établi la loi du salut entre lui-même et l'humanité afin de nous sauver de la destruction due au péché. Grâce à la loi de Dieu, l'humanité a pu se voir telle qu'elle est réellement faible et défaillante. En prenant conscience de leur faiblesse et leurs manquements, les hommes en sont venus à croire au bel évangile que Jésus a donné et ont été sauvés. Lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, nous réalisons que nous avons péché et les pécheurs recherchaient la grâce de Dieu pour être lavés de leurs péchés. Jésus, qui est Dieu, est né dans ce monde par le corps d'une femme. Jésus est venu sur cette terre pour sauver toute l'humanité du péché. Sa venue sur cette terre était conforme au plan de Dieu, afin d'accomplir la volonté de Dieu en venant dans un corps humain. Nous croyons au bel évangile que le Seigneur nous a donné. C'est pourquoi nous louons le Seigneur. Certaines personnes en veulent à Dieu en disant « Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme aussi faible et l'a-t-il laissé tomber dans le péché pour qu'il souffre ?» Mais Dieu n'a jamais désiré la souffrance humaine. Au contraire, c'est parce que les gens ne croient pas au bel évangile que Jésus-Christ a accompli que la souffrance est venue sur eux. Dieu a donné à la fois le bel évangile et la souffrance afin de faire des hommes ses enfants, pour qu'ils puissent jouir de la même autorité que Dieu. Tel était le plan de Dieu. Mais Satan a insufflé dans le cœur des hommes des pensées opposées à Dieu, en murmurant, « Non, non. Dieu est un dictateur. Vis comme tu veux. Sois indépendant. Tiens-toi debout par toi-même. » Ce faisant, Satan a détourné les hommes de la foi en Dieu. Or, ceux qui vivent sans Dieu s'opposent à son plan de salut. Jésus est venu lui-même sur cette terre pour appeler ceux qui étaient sous le pouvoir de Satan et les sauver du péché. Nous ne devons jamais devenir des personnes qui vivent sans Dieu. Toute l'humanité était destinée à l'enfer dès la naissance à cause du péché. Il n'y a pas de vérité immuable dans ce monde, si ce n'est le bel évangile donné par Jésus, qui est la vérité éternelle et immuable elle-même. C'est pourquoi les hommes pouvaient s'appuyer sur cette vérité pour échapper à la puissance de Satan. L'humanité, ayant hérité du péché d'Adam, était soumise au jugement, mais maintenant, par Jésus-Christ, nous avons reçu la gloire de devenir enfants de Dieu. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses, Ésaïe 9 verset 1. Dieu a glorifié ceux d'entre nous qui croient au salut bel accompli par son Fils, Jésus. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort une lumière resplendit, Ésaïe 9 verset 2. Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie en nous. Nous avons reçu, par la foi en l'Évangile bel, une bénédiction qui apporte une satisfaction éternelle, quelque chose que nous ne pourrions jamais goûter dans ce monde. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité de tout péché et a accordé la vie éternelle et le ciel à ceux qui croient au bel Évangile. La lumière du bel Évangile a brillé sur nous, qui n'avions aucun espoir. La vie humaine est comme une brume qui n'existe que brièvement dans ce monde puis disparaît. Toutes les vies sont comme l'herbe qui se dessèche. L'herbe ne se vante de sa vitalité que pendant quelques mois de l'année, puis disparaît selon la providence de Dieu. Nous aussi, nous étions des êtres vains, sans vérité ni signification. Cependant, Dieu nous a rencontrés à travers le bel Évangile, nous sauvant d'une vie de labeur futile et faisant de nous ses enfants par sa justice. Quelle grâce incroyable ! Une vie qui était momentanément dépourvue de sens a été transformée en vie éternelle par Dieu, et nous avons même reçu la gloire de devenir ses enfants. Par la grâce du Seigneur, il y a une âme qui a cru au bel Évangile et a reçu toutes les bénédictions célestes. Écoutons son témoignage. Je suis né dans une famille qui ne croyait pas en Dieu. Ainsi, j'ai grandi sans le connaître, pensant que le fait que ma mère offrait de l'eau et priait à l'aube était un bel acte de foi. En grandissant, je n'ai pas pu trouver de sens à la raison pour laquelle je devais vivre et j'ai réalisé que j'étais un être insignifiant. À cause de ce manque de valeur personnelle, ma vie est devenue vide, ne laissant rien dans mon cœur et menant à une existence désolée. Ce genre de vie m'a beaucoup épuisé, et j'ai fini par me précipiter dans le mariage. Ma vie conjugale était paisible parce que je n'avais ni attente ni désir, ce qui me permettait de vivre tranquillement et calmement. Pendant cette période, j'ai eu un enfant, et ce n'est qu'à ce moment-là que l'amour a commencé à exister dans mon cœur. Quelque chose de précieux est entré dans mon cœur, me donnant de l'espoir et me rendant craintif de le perdre. C'est alors que j'ai commencé à chercher Dieu. J'étais faible et impuissante, alors j'avais besoin d'un Seigneur absolu. J'avais besoin d'un Dieu à qui confier moi-même et mon être précieux, un Dieu qui nous protégerait. Après cela, j'ai commencé à aller à l'église. Au début, ma foi était un mélange de peur vague, d'aspiration et de croyance, semblable à la foi que ma mère avait lorsqu'elle priait avec le bassin d'eau. Puis, un jour, je suis tombée par hasard sur une des petites réunions de cette église. Pendant que nous chantions des louanges, j'ai soudainement commencé à pleurer sous une puissance que je ne comprenais pas. J'étais embarrassée et j'ai essayé d'arrêter mes larmes, mais elles coulaient sans contrôle, malgré ma volonté. Ceux qui ont vu cela ont posé les mains sur moi et ont prié, disant qu'ils se réjouissaient et me félicitaient parce que c'était un signe que le Saint-Esprit était venu sur moi. Mais j'étais confuse. À cette époque, je ne connaissais pas bien la parole de Dieu, et comme ma foi était vague, je ne pouvais pas avoir la certitude que cette puissance inconnue était le Saint-Esprit. La première église que j'ai fréquentée était une église axée sur le mouvement du Saint-Esprit, où de nombreuses manifestations surnaturelles avaient lieu, et presque toute la congrégation pouvait parler en langue. Pendant que je fréquentais cette église, une réunion spéciale de réveil a été organisée, à laquelle était invité un pasteur connu pour avoir reçu le Saint-Esprit, et j'ai décidé d'y assister. Ce pasteur a rassemblé beaucoup de gens et a affirmé que, par la puissance du Saint-Esprit, il pouvait guérir la sinusite. Cependant, dans mon cœur, je me suis dit, la sinusite n'est-elle pas une maladie que l'on peut soigner à l'hôpital? Ce qui m'intriguait le plus, c'était par quelle parole et par quel genre de foi ce pasteur avait reçu le Saint-Esprit. Cependant, au lieu d'expliquer la parole ou la foi, il s'est contenté d'exhiber sa puissance en faisant venir des lycéens et en prophétisant s'ils seraient tout non admis à l'université. Beaucoup de gens l'acclamaient, invoquant le Seigneur comme s'ils étaient témoins de la puissance de Dieu. Mais je ne pouvais pas les comprendre d'un point de vue humain. Je ne pouvais pas non plus reconnaître cette puissance comme venant du Saint-Esprit. À ce moment-là, je pensais que la sinusite devait être soignée à l'hôpital et que le fait d'entrer ou non à l'université n'était pas ce qui comptait, ce qui est plus important, c'est de faire de son mieux. Par conséquent, je ne pouvais pas accepter ces actes comme des œuvres du Saint-Esprit. Pour moi, la puissance et l'amour de Dieu ne se trouvaient pas dans ce genre d'actes ni dans ce type de foi. Ainsi, en voyant les croyants qui acceptaient ces choses, je n'ai eu d'autre choix que de quitter cette église. Par la suite, j'ai commencé à fréquenter une église plus calme, d'une autre dénomination. J'ai choisi cette église parce qu'elle semblait avoir la parole. Grâce au sermon de cette église, j'ai appris à connaître la loi, et par la loi, j'ai réalisé à quel point j'étais vraiment injuste. En conséquence, ma vision de Dieu est devenue une vision de crainte. Je ne pouvais plus m'approcher de Dieu avec assurance, et j'avais l'impression que l'Esprit de Dieu avait détourné son visage de moi. La parole dit dans Ésaïe 59 versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce passage s'appliquait directement à moi. Parce que toute ma vie et même mes pensées provenaient du salaire du péché, devenir un enfant de Dieu et recevoir l'habitation du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, me paraissait totalement impossible. J'avais tellement peur de Dieu que je priais ardemment des prières de repentance en tout temps. Personne ne m'y obligeait, je priais avec ferveur parce que je voulais me tenir devant Dieu et parce que je savais que j'avais du péché. Cependant, ces prières n'enlevaient pas complètement mes péchés. Elles ne faisaient que servir à dévoiler mon cœur à Dieu, mais le péché demeurait. Par la suite, même en continuant à aller à l'église, j'ai commencé à ressentir du ressentiment envers Dieu. Je voulais être juste devant lui, mais à cause de mes insuffisances, je ne pouvais pas atteindre la justice. En conséquence, le ressentiment et le péché continuaient de s'accumuler dans mon cœur. Alors que je menais ce genre de vie religieuse, quelque chose est arrivé, mon père s'est effondré. Il a subi des opérations et des soins intensifs pendant 40 jours, puis il est finalement décédé. Pourtant, je n'ai pas pu prier une seule fois pour lui. C'était parce que je ressentais avec certitude ma propre nature pécheresse que je pensais que si une pécheresse comme moi priait pour lui, cela pourrait lui causer une souffrance encore plus grande. Je suis tombée dans le désespoir concernant ma foi. Je voulais suivre Dieu, mais je n'y parvenais pas, et à cause de cela, j'en suis venue à lui en vouloir et finalement à l'abandonner. Ma vie de foi s'est terminée ainsi. Je croyais qu'en faisant confiance au Seigneur, son Saint-Esprit serait avec moi et qu'il apporterait la paix à ma vie agitée. Je désirais ardemment qu'il soit présent dans ma vie vide, mais contrairement à ses espoirs, mon parcours de foi s'est achevé de cette manière. Par la suite, ma vie est devenue encore plus remplie de vide, de peur et de ressentiment qu'auparavant. Mais même alors, le Seigneur ne m'a pas abandonné, qu'il est venu me chercher. En vérité, il m'a guidé pour que je rencontre un pasteur ayant reçu l'habitation du Saint-Esprit par la parole. Ce pasteur m'a enseigné, à travers les Écritures, que Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde, y compris les miens, lorsqu'il a été baptisé par Jean, de la même manière que l'imposition des mains dans l'Ancien Testament. Le pasteur a expliqué que Jésus a pris sur lui tous les péchés en étant baptisé et qu'en étant jugé sur la croix, il a ôté tous les péchés de ce monde et tous mes péchés. En écoutant ce message, tout ce qui était flou et obscur dans mon cœur est devenu lumineux par la foi en cette parole. J'ai compris et cru que tous mes péchés avaient été lavés. Ainsi, Dieu m'a accordé l'élimination complète de mes péchés et, en même temps, il m'a donné l'habitation du Saint-Esprit. Maintenant, à cause du Saint-Esprit, je goûte à la paix. Quelles que soient mes faiblesses, je vis désormais une vie complète, conduite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me guide en silence, m'enseignant le bien et le mal à travers sa parole et me permettant de vaincre le monde. Il a aussi pleinement exaucé mes prières et m'a permis de mener une vie de véritable valeur et de but absolu. Je suis profondément reconnaissante à Dieu d'avoir permis à son Saint-Esprit d'habiter en moi. De cette manière, nous sommes tous venus à mener une vie habitée par le Saint-Esprit, ayant reçu la grâce du salut du péché donné par Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Seigneur qui nous a accordé le bel évangile. Notre Dieu a accordé de telles bénédictions aux justes. Le cœur des justes est rempli de joie et d'allégresse. Le Seigneur nous a donné une joie éternelle. Nous savons à quel point nous devons être reconnaissants pour l'amour et la grâce du salut que Dieu nous a donné. Le Seigneur nous a donné la joie à travers le bel évangile du ciel, et non de ce monde. Ces joies sont des choses qui ne peuvent s'acheter avec l'argent du monde. Dieu a donné le vrai et saint Saint-Esprit à nos cœurs vains, en même temps que le bel évangile, et par cet évangile, il a fait de nous des personnes remplies de joie et d'allégresse débordante. Le bel évangile que le Seigneur nous a donné aide et guide notre vie afin que notre cœur soit rempli de joie et que nous puissions mener une vie bénie. Notre Seigneur se réjouit et prend plaisir en les justes qui vivent dans les bénédictions par le bel évangile qu'il nous a donné. Comme il est écrit dans l'évangile de Luc dans le Nouveau Testament, Marie dit « Car rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc chapitre 1 verset 37 à 38. Au moment où Marie crut avec obéissance à la belle parole que Dieu lui a donnée à travers l'ange, Jésus fut conçu dans le cœur de Marie. De la même manière, le bel évangile a été conçu dans le cœur des justes. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian, Ésaïe 9 verset 4. La souffrance, la maladie et toute oppression dans nos vies sont venues par Satan le diable, et nous, les êtres humains, devions lutter contre Satan le diable. Cependant, les hommes eux-mêmes étaient faibles et n'avaient pas la force de vaincre complètement Satan ni de supprimer son pouvoir. Cependant, Dieu nous a aimés et a livré tous ses combats contre Satan le diable à notre place, et il a remporté la victoire pour nous. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées, Ésaïe 9 versets 6 à 7. Dieu a promis de faire de tous ceux qui croient un peuple glorieux de Dieu par le bel évangile que Jésus-Christ a accompli par son baptême et son sang versé sur la croix, pour les pécheurs qui étaient sous le péché, c'est-à-dire sous l'autorité de Satan. Dieu a fait cette promesse, et selon la parole de cette promesse, il a combattu Satan et a remporté la victoire. Ainsi, il nous a apporté la délivrance et la victoire de sous l'autorité de Satan. Notre Seigneur lui-même est venu sur cette terre et a promis que, par sa propre autorité, il ôterait ses ténèbres, le péché. Le nom de notre Seigneur est aussi appelé « admirable ». « Admirable » signifie « merveilleux » ou « prodigieux ». C'était une chose mystérieuse et incompréhensible que Dieu lui-même soit venu comme un homme. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. De même que le Seigneur nous a promis la délivrance du péché, il nous a accordé l'effacement éternel du péché. Tout comme le nom de Jésus est « admirable », Jésus a lui-même effectué cet acte merveilleux pour nous. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Dieu, en tant que notre conseiller, a planifié le salut des nombreux péchés que nous commettons à travers le bel évangile et l'a accompli, nous accordant ainsi, à nous qui croyons en lui, le salut éternel du péché. Comme il est dit que la sagesse des hommes est inférieure à la folie de Dieu, l'œuvre par laquelle Jésus lui-même a été baptisé par Jean-Baptiste et est mort sur la croix, en ôtant ainsi les péchés du monde une fois pour toutes selon le plan de Dieu, voilà la sagesse du bel évangile. Cette œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous est un acte merveilleux et mystérieux. C'était la loi de l'amour qui nous apporte le salut. La loi de l'amour qui apporte le salut est le parfait évangile de la vérité par lequel le Seigneur, par l'eau et le sang, a fait habiter le Saint-Esprit en nous. Dans Ésaïe 53, verset 10, Dieu dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance ». Cela signifie qu'il a accompli sa volonté en offrant son Fils comme victime expiatoire. Autrement dit, Dieu a fait que son propre Fils reçoive le baptême et a transféré sur lui les péchés du monde, et il a fait que son Fils subisse dans sa chair des meurtrissures, de la tristesse et de la douleur, afin qu'il reçoive le jugement pour tous les péchés de l'humanité. Tout cela, sauvé une fois pour toute l'humanité, est le bel évangile de la vérité. Pour sauver l'humanité du péché, Jésus a offert son corps en sacrifice pour le péché au Père, et il nous a accordé la grâce du salut en payant pleinement le prix des péchés de l'humanité. La loi sacrificielle donnée par Dieu. Combien de péchés Jésus a-t-il pris sur lui par le baptême qu'il a reçu de Jean ? Tous les péchés du passé, du présent et du futur, du commencement à la fin du monde. Dans l'Ancien Testament, la loi sacrificielle pour expier les péchés d'un seul jour est consignée. Selon cette loi, la personne qui avait péché devait apporter une offrande sans défaut, poser sa main sur la tête de l'animal et transférer son péché à l'offrande par l'imposition des mains. Ensuite, le sang de l'animal était prélevé, appliqué sur les cornes de l'autel des holocaustes, et le reste du sang était répandu sur le sol, c'est ainsi que le péché d'un jour était expié. Dieu a établi cette loi sacrificielle pour ôter le péché. Pour qu'une personne reçoive la rémission de ses péchés devant Dieu, il fallait une offrande sacrificielle pour ses propres péchés, et la personne devait poser les mains sur l'animal sacrificiel afin de transférer son péché. Cette imposition des mains a été ordonnée par Dieu comme méthode de transfert du péché du pécheur. Lorsque quelqu'un obéissait à cette loi sacrificielle et offrait le sacrifice, cette personne recevait l'élimination de ses péchés. Cette loi sacrificielle était ce que Dieu avait donné à l'époque de l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus-Christ, afin d'ôter les péchés du peuple. De plus, Dieu, sachant que tous les hommes sont faibles et infidèles et donc incapables de recevoir le lavement des péchés, a fixé un jour précis où tous les péchés accumulés au cours de l'année pouvaient être effacés d'un seul coup. Ce jour était le 10e jour du 7e mois chaque année dans l'Ancien Testament. Dieu a désigné un souverain sacrificateur pour transférer les péchés de toute l'année sur une offrande sacrificielle, et c'était là la sagesse de l'Éternel. Dieu a tout fait selon son propre plan et sa prédestination. L'élimination des péchés que Dieu a donnés à l'humanité provient de la sagesse et de l'amour de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Dieu a désigné un représentant, c'est-à-dire le souverain sacrificateur représentant le peuple, pour poser ses mains sur la tête du bouc sacrificiel et transférer sur lui tous les péchés annuels du peuple d'Israël. Ensuite, l'animal était tué, et son sang était appliqué sur les cornes de l'autel des holocaustes. Ces cornes de l'autel des holocaustes symbolisaient le livre du jugement dans lequel les péchés des gens étaient inscrits. Appliquer le sang sur les quatre cornes de l'autel signifiait effacer les noms écrits dans le livre du jugement. Cela, parce que la vie est dans le sang. L'animal sacrificiel recevait tous les péchés accumulés au cours de l'année par les Israélites par l'imposition des mains et versait son sang pour payer le prix de leurs péchés à leur place. Dieu a délivré l'humanité de tout jugement pour ses péchés en faisant mettre à mort l'offrande sacrificielle, qui avait reçu tous les péchés par l'imposition des mains, comme jugement pour ses péchés. C'était l'amour planifié de Dieu, la sagesse de Dieu et la loi d'amour envers l'humanité. De cette manière, les hommes reçoivent la rémission de leurs péchés selon le plan de Dieu. Jésus-Christ est venu sur cette terre comme l'offrande pour le délit afin d'accomplir cet amour planifié. Tout comme les Israélites de l'Ancien Testament savaient et croyaient que leurs péchés étaient effacés par cette loi sacrificielle, Jésus-Christ est venu comme l'offrande pour le délit afin de porter tous les péchés de tous les hommes du monde. Si nous regardons les paroles de la promesse, il est écrit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, Ésaïe 53 verset 10, ou encore, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Jean chapitre 1 verset 29. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées, Ésaïe 9 versets 6 à 7. L'œuvre merveilleuse et mystérieuse que le Seigneur accomplirait pour nous était l'accomplissement du plan de Dieu par Jésus-Christ, par lequel il ôterait complètement tous les péchés de la terre et donnerait la paix à tous ceux qui croient en cela. La promesse de Dieu était une promesse d'amour qui apporterait la paix à toute l'humanité. Dieu a fait cette promesse pour nous, et notre Seigneur a accompli concrètement cette promesse. Matthieu chapitre 1 verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Ici, le sens du nom, Jésus, est « c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés », c'est-à-dire le Sauveur. Le mot « Christ » signifie « loin, roi, souverain sacrificateur céleste et prophète ». Jésus, étant sans péché, est venu par le corps d'une vierge pour sauver l'humanité du péché, il est notre roi et notre Sauveur. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, Matthieu chapitre 1 verset 21 à 22. Jésus a porté tous les péchés du monde par son baptême dans le Jourdain. Dans Matthieu chapitre 3 verset 13 à 17, il est écrit « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » À ce moment-là, Jean-Baptiste apparaît. Alors, pourquoi Jésus devait-il être baptisé par Jean? Il y avait une raison pour laquelle Jésus devait recevoir le baptême de Jean. La raison en est que Jésus devait faire l'œuvre merveilleuse de sauver tous les pécheurs du monde. Pour porter une fois pour toutes tous les péchés de l'humanité selon le plan de Dieu, Jésus devait être baptisé par Jean. Dieu lui-même, Jésus, est venu recevoir le baptême de Jean. Ce fut un acte mystérieux pour toute l'humanité. Et la domination reposera sur son épaule. Le terme « domination » signifie autorité ou pouvoir. Jésus possède l'autorité en tant que souverain du ciel et de la terre, ainsi que la puissance en tant que roi de ce monde, une autorité qui n'appartient qu'à lui. De plus, Jésus a accompli un acte merveilleux pour ôter les péchés de l'humanité. Cet acte merveilleux consistait à prendre sur lui tous les péchés des hommes une fois pour toutes par son baptême reçu de Jean. C'est pourquoi Jésus a été baptisé par Jean. Jésus a reçu le baptême comme offrande sacrificielle pour prendre sur lui les péchés du monde par l'intermédiaire de Jean. La raison pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean était de porter tous les péchés de l'humanité. De plus, lorsqu'il a dit « car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste », il voulait dire qu'il était juste et approprié d'ôter tous les péchés de l'humanité. Romains chapitre 1 verset 17 dit « parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi ». Cela signifie que la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile de Dieu. Alors, le véritable évangile de l'eau et de l'esprit révèle-t-il la justice de Dieu? Oui, cet évangile est le bel évangile dans lequel Jésus-Christ a reçu le baptême de Jean, a pris sur lui tous les péchés du monde et a été crucifié sur la croix. L'évangile de l'eau et de l'esprit est le bel évangile dans lequel la justice de Dieu est révélée. Alors, quand, où et par qui Jésus a-t-il pris sur lui les péchés du monde? Au Jourdain, Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean. Le terme « tout ce qui est juste » en grec est « dikaiosune ». Cela signifie que Jésus a pris sur lui les péchés de l'humanité de manière équitable et juste. Cela fait spécifiquement référence au baptême que Jésus a reçu de Jean. Le fait que Jésus ait été baptisé par Jean pour prendre sur lui les péchés du monde signifie que c'était absolument juste et droit. Pour ôter tous les péchés de l'humanité, Jésus devait absolument recevoir le baptême de Jean. Car ainsi, le fait que Jésus ait été baptisé par Jean pour porter les péchés du monde était juste et approprié. De plus, il était absolument nécessaire que Jésus soit baptisé par Jean afin de nous donner la paix. Si Jésus n'avait pas été baptisé par Jean et n'avait pas versé son sang sur la croix, il n'aurait pas pu devenir notre Sauveur. Jésus, en tant que victime expiatoire, a pris sur lui tous les péchés de ce monde et a été sacrifié comme une offrande expiatoire. Dans Ésaïe 53, verset 6, l'Éternel dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Pour accomplir la volonté de Dieu, Jésus devait prendre sur lui tous les péchés de l'humanité dans son corps. C'est pourquoi Jésus est venu dans la chair humaine comme victime expiatoire afin de recevoir le baptême de Jean. Jésus a porté les péchés de l'humanité par le baptême et a versé son sang sur la croix, recevant le jugement à notre place et accomplissant ainsi l'amour le plus juste et le plus parfait envers nous. Dieu lui-même a témoigné lorsque Jésus a été baptisé par Jean. « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Un enfant nous est né. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, Ésaïe 9, verset 6. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Dieu créateur qui a fait toutes choses dans l'univers. Non seulement il est le Fils du Père Tout-Puissant, mais parce qu'il nous a créés, il est notre Dieu et le Roi de la paix. Jésus est le Dieu qui a apporté le bonheur à l'humanité. Jésus est le Dieu de la vérité. En vérité, il a pris sur lui tous nos péchés et nous a sauvés, et il nous a donné la paix. Mes amis, y a-t-il du péché dans ce monde? Non, il n'y en a pas. La raison pour laquelle nous pouvons affirmer avec assurance qu'il n'y a pas de péché, c'est parce que nous croyons dans nos cœurs au bel évangile accompli par le baptême que Jésus a reçu de Jean et par le sang versé sur la croix. Jésus ne nous a pas menti. Jésus a payé pour tous nos péchés par son baptême et son sang. Il a fait de ceux qui croient cela le peuple de Dieu et a donné la paix à ceux qui croient. De plus, Jésus est devenu roi pour ceux qui sont devenus son peuple par la foi. Et il leur a permis de vivre éternellement comme un peuple saint, sans péché, par la foi. Louons le Seigneur et rendons-lui grâce devant sa face. Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1 verset 29 dit, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Après que Jésus-Christ eut accompli l'acte juste avec Jean, l'acte de recevoir le baptême et de prendre sur lui tous les péchés du monde, il se présenta de nouveau devant Jean-Baptiste, portant tous les péchés du monde. Jean rendit témoignage à Jésus en disant, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Dans Jean chapitre 1 verset 35 à 36, il est encore écrit, « Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples, et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Jésus est le Messie, l'agneau promis par Dieu dans l'Ancien Testament. Conformément à cette parole prophétique, Jésus-Christ, le Messie, est venu sur cette terre et a réellement été baptisé afin de devenir notre admirable conseiller, Dieu puissant, Sauveur et Rédempteur. Un enfant nous est né, et il a reçu le baptême de Jean pour porter les péchés de toute l'humanité. En payant le prix de ses péchés, il nous a accordé l'élimination du péché et est devenu le roi de la paix qui nous donne la paix. Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. L'humanité était destinée à la destruction à cause du péché fondamental. Les êtres humains, en raison de leurs faiblesses et de leurs défauts, commettaient de nombreux péchés en vivant dans ce monde et étaient des êtres pitoyables qui n'avaient d'autre choix que de vivre sous le poids du péché et de finir en enfer. Aucune personne, à cause de sa propre faiblesse, ne pouvait même espérer voir le royaume de Dieu, encore moins y entrer, leur vie était vraiment misérable. Devant de telles vies est apparu Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même. Il est venu en personne pour porter tous les péchés humains qui étaient inévitables à cause de la faiblesse humaine, en recevant le baptême de Jean au Jourdain. Il a pris ses péchés sur lui et s'est dirigé vers la croix. Là, il a été crucifié et est mort. Tout est accompli. Ces paroles que Jésus a criées à sa mort étaient une déclaration qu'il avait sauvé toute l'humanité du péché et de la mort et qu'il avait accordé la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Tout le monde. Où sont tous les péchés de ce monde? Ne sont-ils pas sur le corps de Jésus-Christ? Où sont ces fautes qui nous faisaient vivre misérablement sous le péché dans ce monde? Elles ont toutes été transférées à Jésus-Christ. Où sont tous nos péchés? Ils sont sur celui qui a l'autorité, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, sur son corps. Tous les péchés, de la naissance à la mort. Toi et moi, nous commettons continuellement des péchés en vivant sur cette terre après notre naissance. Nous avons commis des péchés de l'âge de 1 à 20 ans. Où sont allés ces péchés? Ils ont été transférés sur le corps de Jésus-Christ. Les péchés commis de 21 à 30 ans ont également été transférés à Jésus. Si quelqu'un a vécu dans ce monde jusqu'à l'âge de 82 ans, cela signifie que tous les péchés qu'il a commis de la naissance à la mort ont été transférés à Jésus. Les péchés de ses enfants et même les péchés de ses petits-enfants ont tous été transférés à Jésus-Christ. Depuis Adam jusqu'à la dernière personne vivant à la fin du monde, tous les péchés commis par chacun dans ce monde ont été transférés à Jésus. Lorsque Jésus-Christ a été baptisé par Jean, tous ses péchés ont été transférés sur lui. Comment pourrait-il y avoir du péché en nous qui croyons en Jésus-Christ? Il n'y en a pas. Désormais, pour nous qui croyons au bel évangile donné par Jésus-Christ, il ne peut plus y avoir aucun péché. As-tu du péché? Il n'y a pas de péché, amen. Ce bel évangile est l'évangile vraiment merveilleux dans lequel Jésus-Christ nous a sauvés une fois pour toutes et pour l'éternité des péchés du monde. Louange à Jésus le Tout-Puissant qui a accompli cette œuvre. Mes amis, Jésus-Christ a restauré la vie que nous avions perdue. Nous qui croyons au bel évangile pouvons désormais vivre avec Dieu. Même ceux qui étaient devenus ennemis de Dieu à cause de leurs péchés, même les pécheurs qui n'avaient d'autre choix que de se cacher dans la forêt des ténèbres, notre Seigneur a reçu le baptême de Jean, a été cloué sur la croix, a versé son sang et est ressuscité pour laver complètement nos péchés. Ceux qui croient ce bel évangile dans leur cœur sont sauvés des péchés du monde. Maintenant, nous qui avons cru au parfait évangile de Jésus, nous sommes devenus le peuple saint de Dieu, sans péché. Jésus a clairement offert son corps comme offrande pour le péché à la place de nos fautes. Le salaire du péché, c'est la mort, et il a pleinement payé le prix de nos péchés. Lui, le Fils Tout-Puissant de Dieu qui n'a jamais commis ne serait-ce qu'un seul péché dans ce monde, a porté tous nos péchés et a sauvé de leurs péchés ceux qui croient en lui. Comme il est écrit dans Ésaïe 53 verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Jésus a pris sur lui tous les péchés personnels, le péché originel et chaque péché du monde, sans en laisser un seul, par son baptême, et il a pleinement payé le prix sur la croix, nous sauvant ainsi de tout péché. Par ce bel évangile, Jésus a complètement lavé les péchés du monde que nous commettons. Jésus nous a restauré la vie nouvelle que nous avions perdue. Ceux qui croient en ce bel évangile ne sont plus morts spirituellement. Parce que notre Seigneur a pris sur lui tous les péchés par son baptême et a payé le salaire de ses péchés sur la croix, nous sommes maintenant nés de nouveau et avons reçu la vie éternelle. En croyant en ce bel évangile de Jésus-Christ, nous sommes devenus le véritable peuple de Dieu. Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Croyez-vous qu'il est votre Sauveur? Moi aussi, je crois. Jésus-Christ est devenu la vie pour nous. Le Dieu miséricordieux m'a sauvé, maintenant j'ai retrouvé la vie que j'avais perdue. Comme le dit ce cantique, Jésus a restauré la vie que nous avions perdue. Jésus a racheté nos âmes, qui étaient hypothéquées à la mort à cause du péché et des transgressions, en payant le prix par son baptême et sa mort sur la croix. Il est ensuite ressuscité d'entre les morts et nous a pleinement délivrés de l'esclavage au péché, de la puissance de la mort et de l'esclavage à Satan. Le Seigneur, en tant que Dieu qui nous a sauvés du péché, est devenu le sauveur de tous ceux qui croient en lui. Dans Hébreux 10 versets 10 à 12, versets 14 et versets 18, l'Écriture nous dit que le Seigneur a fait en sorte que nous n'ayons plus besoin d'être purifiés de nos péchés à nouveau. En croyant en Jésus, nous entrons dans le royaume de Dieu. Nous étions autrefois défaillants et destinés à mourir à cause de nos nombreuses fautes et de nos péchés, mais en croyant au baptême et au sang de Jésus, nous pouvons maintenant entrer au ciel et vivre une vie éternelle. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, Jean 10 verset 11. Notre Seigneur est venu sur cette terre pour nous sauver des péchés du monde. Il a été baptisé par Jean, a versé son sang sur la croix pour mourir à notre place, est ressuscité d'entre les morts, et nous a donné le bel évangile. De plus, il a permis à ceux qui croient en cette vérité et qui ont été purifiés de leurs péchés de recevoir l'habitation du Saint-Esprit. Merci. Seul ce bel évangile peut donner aux croyants l'habitation du Saint-Esprit. Alléluia. Louange à notre Seigneur.